La première.
Podcast.
Le grand 8 du week-end. Entre premières.
Le magazine de l'actualité économique jusqu'à 9h. On va parler avec notre invité dans un instant. Intégration des étrangers. Pour notre débat ce matin, nous accueillons Vincent Slitz de la Libre Belgique. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et Françoise Gillin de notre rédaction. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Revenons tout d'abord sur le départ d'Albert Frère de GBL. Voilà ce qu'on disait cette semaine Maurice Lippens, c'est administrateur de GBL. C'était à l'Assemblée Générale de ce mardi.
Vous savez, il dit au revoir, hein, il ne dit pas adieu. Il part, mais il ne part pas. Il reste actionnaire, il va suivre les affaires d'aussi près qu'avant. Il ne sera plus présent au conseil d'administration, mais il va suivre les affaires comme il a. Vous savez, c'est quelqu'un qui a dit « moi, je mourrai au travail ». Je pense que c'est bien son intention de vivre très longtemps encore et de suivre les affaires de très près. Mais c'est quand même émouvant parce que c'est quand même un petit peu un au revoir. C'est pas un adieu.
On sent une petite pointe de nostalgie, hein, François. C'est une page du capitalisme qui se tourne, même si GBL reste une entreprise à ancrage familial. On peut dire que la dynastie est sauvegardée.
Mais c'est un changement de génération, mais il a été soigneusement préparé. Ça fait 3 ans qu'Albert Frère prépare sa succession. Il a déjà mis en orbite son beau-fils, Yann Gallienne, qui a la direction de GBL avec Gérard Lamarche, un financier. Il a aussi mis à la présidence de GBL son propre fils, Gérald Frère, et puis sa fille et son petit-fils sont au conseil d'administration. Donc on peut dire que clairement GBL reste une affaire de famille. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce que certains détracteurs lui reprochent, c'est qu'il a fait peut-être de son groupe qui avait une visée plus large dans le temps, un groupe à gestion patrimoniale qui avait moins d'intérêt dans les sociétés qu'il n'en avait auparavant. Mmh. Et qui s'est peut-être un petit peu essoufflé depuis le temps où on a connu les grosses affaires, les grosses OPA. Là, il faisait plutôt de la gestion à plus court terme.
Alors même si on reste en famille, Vincent, est-ce qu'on peut craindre que ce départ change la donne au niveau de la gestion? On sait qu'il laisse une entreprise en bonne santé.
Oui, non, je pense qu'on s'inscrit plutôt dans une certaine continuité. Effectivement, Albert Frère, au moment de son départ, laisse un groupe qui est en bon état de marche, un groupe qui est peu endetté, qui a un trésor de guerre à peu près d'1 milliard d'euros et qui devrait finalement poursuivre la stratégie qui est la sienne, c'est-à-dire d'investir dans des entreprises qui sont leaders sur le marché et qui peuvent éventuellement être intégrées ou qui peuvent faire l'objet d'opérations de consolidation sectorielle. On sait que l'énergie, notamment avec ses participations dans Total et GDF US, devrait à terme quitter le portefeuille de GBL, mais la stratégie devrait globalement rester inchangé. Peut-être un échec d'Albert Frère, il faut peut-être le signaler, c'est ce qu'on appelle la décote de holding. Je vais faire simple, c'est la différence entre le cours de bourse et la valeur, si vous voulez, de l'action en fonction des actifs qui se trouvent dans le portefeuille. Alors, on pourrait peut-être attribuer cet échec à une communication qui n'est peut-être pas assez, je dirais, transparente ou agressive. Évidemment, c'est une petite révolution aussi pour un groupe qui a toujours eu comme adage pour vivre heureux, vivre caché.
Et oui, et pour revenir un instant sur la personnalité aussi du monsieur, Françoise, on peut dire que Albert Frère a plus été un financier pur, plutôt qu'un véritable capitaine d'entreprise.
Oui, c'est en tout cas le sentiment de tous ceux qui attache de grandes valeurs à l'ancrage belge des sociétés. Dans le passé, Albert Frère a vendu sans état d'âme à la fois Petrofina, il a laissé passer sous pavillon étranger la BBL, la Royale Belge, Tractebel, en faisant au passage de belles plus-values. Le fait de céder Petrofina, il se retrouve avec 3% du capital de Total, mais est-ce qu'il a maintenant la même marge de manœuvre qu'il l'avait dans le passé? Non. Donc clairement, ça a été un tacticien, un financier, jamais un très grand chef d'entreprise, et ça, certains Belges le lui reprochent.
Vous êtes d'accord, Vincent? Pas d'état d'âme?
Mais c'est vrai qu'Albert Frère n'a jamais été un bâtisseur d'entreprise comme a pu l'être, par exemple, un Bernard Arnault en France, hein, qui a créé LVMH, qui est ce géant de luxe, ou un Steve Jobs, par exemple, aux États-Unis, qui a créé quasiment de toutes pièces un géant de la technologie comme Apple. C'est quelqu'un qui, effectivement, a toujours mené sa stratégie en fonction, effectivement, d'objectifs financiers, d'optimisation financière, et pas dans l'objectif de créer un empire industriel.
Avec le résultat que c'est quand même la plus grande fortune de Belgique, et selon Forbes, il aurait une fortune personnelle de 4 milliards de dollars.
Et il va pouvoir en profiter maintenant. Alors, deuxième sujet qu'on va aborder ce matin, mais c'est l'information de la fin de la semaine, hein, ce troisième contrat à l'exportation pour Rafale. Commençons par rappeler qui a commandé quoi exactement, Françoise ?
Eh bien, le contrat qui vient de tomber, c'est le Qatar qui commande 24 avions, et cela alors que l'Égypte avait commandé au mois de février 24 avions aussi, et puis l'Inde en a commandé 36 au mois d'avril. C'est surprenant parce que ça faisait presque 20 ans que le Rafale essayait de se vendre à l'exportation et n'y arrivait pas. Il a été conçu et vendu à l'armée française. Il a été mis en service en 2004, mais depuis lors, il a essayé de se vendre au Brésil, ça n'a pas marché. Il a essayé plusieurs contrats à l'exportation, ça n'a jamais pris. Maintenant, coup sur coup, 3 contrats dans le Golfe. Et certains disent, oui, il faut aussi une certaine cohérence, comme chez nous, par exemple, le F-16 est un avion commun à tout l'OTAN. Dans les pays du Golfe, si on commence à s'armer et à s'équiper en rafale, ça voudrait dire que d'autres pays pourraient suivre, comme les Émirats arabes, par exemple, ou le Koweït. Question d'avoir une flotte cohérente entre pays de la même zone géographique.
Donc, si je vous comprends bien, c'est vraiment la situation géopolitique qui a justifié le fait que ça puisse se faire maintenant, Vincent.
Oui, effectivement. Hein, le groupe terroriste État islamique fait peser effectivement un risque au niveau de la sécurité d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui ont évidemment à cœur de s'armer évidemment face à cette menace. Et puis je crois ce qui explique aussi ses succès à l'exportation du Rafale, c'est les performances de cet avion sur un certain nombre de terrains d'opération, que ce soit en Libye, en Afghanistan ou plus récemment effectivement en Irak. Il a fait ses preuves effectivement.
En jouant cavalier seul, Françoise ?
C'est un avion que volontairement l'armée française a conçu. Elle n'a pas voulu se fier aux avions des Américains par exemple. On sait que le F-16 a maintenant un successeur, le F-35. Et c'est un gros enjeu, cet équipement différents dans une partie du monde et l'autre. On sait que la Belgique, par exemple, doit renouveler ses F-16. Mmh. Alors, va-t-elle prendre des Rafales ? Va-t-elle prendre des F-35 ? Ou alors même des Gripen, Eurofighter ou Boeing ? Toute la question est ouverte.
Le suspense reste maintenu. Merci, en tout cas, pour vos explications. Belle journée. Et notre invité à présent est Abdelsam Marcouf, économiste et chercheur à l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. Il travaille sur les questions d'immigration, l'intégration des immigrés et les idées fausses aussi qui circulent à leurs propos. Et Michel Gasset l'a rencontré cette semaine en marge d'un colloque organisé à l'ULB sur les politiques migratoires en Europe et aux États-Unis.
Abdelsam Marcouf, bonjour.
Bonjour.
Vous vous intéressez depuis pas mal d'années à la question de l'immigration. Qu'est-ce que l'économiste peut dire sur la valeur ajoutée, ou pas d'ailleurs, de l'immigration en Belgique et peut-être en Europe d'une manière plus générale ?
Ce que nous, on peut dire, c'est en fait toute une série de choses qui vont au-delà des clichés, qui vont briser les clichés par rapport à l'immigration de façon très générale, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Par exemple, quand on interroge l'opinion publique par rapport à l'impact de l'immigration, une partie importante des Belges, des Wallons, des Flamands vont penser que les immigrés prennent le travail des natifs et non à travers les travaux de chercheurs. On voit que en fait, ce n'est pas le cas. L'immigration n'a pas d'impact sur le chômage, par exemple, les perspectives d'emploi des personnes nées dans le pays.
Comment on peut expliquer ça ? Parce que, après tout, on a l'impression que les immigrés n'ont pas nécessairement de qualification et vont prendre l'emploi non qualifié que d'autres Belges de souche pourraient peut-être prétendre obtenir.
En général, les gens vont tendance à penser que quand les immigrés vont arriver sur le marché de travail, ils vont en fait partager une partie d'un gâteau. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont penser juste à l'offre de travail. Donc, il y a une partie des gâteaux qu'ils vont prendre. Mais ils ne pensent pas en fait que grâce à l'immigration, la taille des gâteaux va augmenter. Parce que les immigrés sont aussi des entrepreneurs, ils sont aussi des consommateurs. On a, par exemple, une proportion significative d'immigrés qui sont des entrepreneurs indépendants, qui créent leur propre emploi. Et quand ils créent leur propre emploi, ben, ils vont créer aussi des emplois pour les autres, y compris pour les personnes non immigrées. C'est toute une série d'éléments auxquels les gens ne pensent pas.
Est-ce qu'on a calculé la valeur ajoutée qui pouvait être produite par l'immigration ? Est-ce qu'on peut le chiffrer ?
Ce qu'on a chiffré, en fait, et ça aussi, ça va à l'encontre d'un cliché dans l'opinion publique, c'est-à-dire qu'on pense, par exemple, que les immigrés sont une charge pour les finances publiques. Et il y a des études qui ont chiffré l'impact de cette immigration sur les finances publiques, et notamment une étude de l'OCDE qui a fait une analyse pour 28 pays. C'est un rapport qui a été publié en 2013 et montrait que les immigrés ne sont pas une charge. Ils contribuent de façon très positive aux finances publiques. Et leur contribution, mais excusez-moi, c'est un peu technique, c'est 0,7% du PIB. Il est positif. Donc ce qu'ils reçoivent en termes de prestations, si vous voulez, allocation de chômage, pour les allocations familiales, et on compare ça à ce qu'ils versent comme impôt, ce qu'ils versent est supérieur à ce qu'ils reçoivent. En tout cas, voilà ce qu'on observe, par exemple. Et ça, on a pu le chiffrer.
Est-ce que, au fond, quand on regarde, le phénomène de l'immigration est un phénomène complexe. Il y a bien sûr les immigrés de première génération, ceux qui arrivent souvent dans la force de l'âge. Est-ce que la situation, est-ce que l'analyse que vous faites est la même pour cette immigration-là et pour leurs descendants, les deuxièmes, éventuellement troisième génération ?
Il y a toute une série de choses qu'on voit que c'est des similitudes. C'est-à-dire que bien que les deuxièmes générations ne sont pas immigrés, par exemple aux États-Unis, on ne va jamais les catégoriser comme deuxième génération. Vous voyez, quand vous êtes né sur le territoire américain, vous êtes ce qu'on appelle native, c'est si tôt, on ne va jamais vous faire référence à votre origine d'immigré. Ici, parfois, on a tendance à les associer à des immigrés, les assimiler à des immigrés, alors qu'en fait, ils sont des gens qui sont nés sur le territoire national, qui sont de nationalité belge. Ce qu'on observe, c'est que parfois, ils souffrent de la même discrimination que les immigrés. Et ça, c'est paradoxal, parce qu'à la limite, je dirais, parfois, les immigrés peuvent trouver une raison en disant, voilà, je viens dans un pays, je dois m'adapter, je n'ai pas mon réseau, je n'ai pas l'information. Mais quand vous êtes deuxième génération, parfois, c'est beaucoup plus difficile à supporter, parce que vous avez fréquenté la même école que les autres, vous avez fait le même circuit, et parfois, vous vous trouvez discriminé. C'est beaucoup, je pense, un peu plus dur pour ces enfants de deuxième génération, troisième génération, parfois.
C'est ça qui expliquerait que parmi les gens qui sont au chômage, on trouve peut-être des proportions de ces populations plus importantes que celles des Belges d'origine.
Le premier élément d'intégration sociale, culturelle d'une personne, c'est son intégration économique. Si une personne est exclue, que ce soit belge, que ce soit immigré, que ce soit de telle ou telle nationalité, s'il n'a pas de travail, s'il n'a pas de possibilité d'avoir une situation des perspectives de carrière, il sera automatiquement exclu de la société, quelle que soit son origine.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a pour le moment en Belgique un potentiel de croissance économique négligé avec justement ces exclusions du monde économique ?
Moi, je pense qu'il y a tout un potentiel à exploiter. Quand on regarde, par exemple, la situation des immigrés, et là, je parle juste des immigrés, je ne parle pas de leurs descendants sur le marché du travail, on voit qu'ils sont, leur taux de chômage est beaucoup plus élevé par rapport aux natifs. C'est le taux de chômage est de l'ordre de 6,5% pour les natifs, c'est 17% pour les immigrés. Et pour certains composants de l'immigration, c'est encore plus, ça peut aller jusqu'à plus que 30%. Ça, je dirais qu'en fait, c'est un potentiel qui n'est pas exploité. Probablement, imaginons que ces personnes-là sont sur le marché du travail, ça peut aussi faciliter l'activité économique. Ça peut, certains, s'ils sont créateurs d'emplois, parmi eux, s'ils sont créateurs de leur propre job, par exemple, comme des indépendants, ça peut aussi être un moteur de l'activité économique. Ça, tout à fait, il y a tout un potentiel qui n'est pas exploité aujourd'hui, je pense.
Abdeslam Marfouk, merci, puis bon week-end.
Merci à vous et bon week-end.
Vous écoutez Entre Premières, il est 8h44. Dans un instant, cap sur Dunkerque. Pour notre profil d'entreprise, on va camper.
Le grand 8 du week-end, Entre Premières.
Notre profil d'entreprise nous emmène donc en France, à Dunkerque, où se trouve l'entreprise Cabanon, spécialisée dans les tentes, entièrement développée, fabriquée sur place dans une petite usine. Chiffre d'affaires, 6,5 millions d'euros par an pour 67 travailleurs. C'est un portrait signé Odile Lehert.
Les couturières coupent, cousent, la toile défile entre leurs mains expertes. Parmi elles, Véronique, 42 ans.
J'ai toujours été dans la confection, mais jamais dans les tentes. J'étais émerveillée par ces tentes parce que c'est toujours du changement. Alors là, j'attaque la Trévonique, une tente de couleur que j'aime énormément parce que c'est une belle tente. On a trois fenêtres à la façade. Voilà, alors là, je suis en train de mettre la bande du milieu. Avec de la sangle.
Ça vous fait quoi de vous dire qu'après des gens vont passer des vacances dans ce que vous avez fabriqué ?
Ah, je suis fière. Ah, je suis fière, je suis contente. Au moins, quand je les vois à la télé, je dis à mon mari ou à des gens que je connais, je fais, c'est nous qu'on les a fait ces tentes-là.
Ce Made in France est l'œuvre d'un Belge, Pierre Serulus, qui a repris l'entreprise en 2012.
Il y a une tradition et un savoir-faire qui a plus de 50 ans.
La France, c'est le deuxième marché en termes de camping. C'est le deuxième marché au monde après les États-Unis. Vous avez entre 8 et 9 000 campings en France. Donc il y a un potentiel de développement pour nos produits qui est certain.
Vous vendez des tentes en France et vous en vendez aussi à l'étranger.
Oui, l'Angleterre qui est un gros marché en développement pour nous, les Pays-Bas, beaucoup sur la caravane pliante. Et on vend tous les ans au Canada. Et puis cette année, on a vendu des tentes en Chine. Alors je pense que c'est une belle histoire. Je ne sais pas si elle se reproduira. C'est un peu l'histoire à l'envers. Et on a aussi vendu en Malaisie.
L'histoire à l'envers, parce que c'est assez rare finalement aujourd'hui d'avoir des tentes, ce type de produits fabriqués en Europe.
Oui, en fait, les gros fabricants aujourd'hui sont la Chine. On ne parle pas de la même qualité, mais aujourd'hui, tout ce qui est vendu dans les grandes surfaces de sport, tout ça vient de la Chine. Ils font plusieurs millions de tentes, à mon avis, à l'année.
Ici, vous faites des produits plus spécifiques ?
On fait des produits qui sont plus basés sur le confort, des produits de qualité au niveau étanchéité. Donc on est dans une niche. Nous, on fait 3500 tentes par an.
C'est important pour vous que ce type de tentes soit encore fabriqué en Europe et pas que en Asie,
Ah oui, c'est important. Et on est fiers de faire ce qu'on fait en France, parce que tout le monde ne sait pas le faire non plus. Je veux dire, même s'il y a des copies sur les tentes, c'est pas exactement le même modèle, c'est pas la même toile. La qualité, elle est vraiment pas pareille. Que là, c'est vraiment de la qualité.
C'est quoi vos objectifs ?
Nos objectifs, c'est de continuer le développement à l'export, c'est de continuer à innover. Donc, on essaye de sortir de nouveaux produits tous les ans. Aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires est avec des produits de moins de 3 ans. Il faut absolument qu'on continue ça parce que sinon, on est rattrapé par les concurrents.
Vous faites du bénéfice ?
Presque.
Et vous croyez qu'il y a un espoir pour ce marché en Europe ?
Ah oui, oui, il y a certainement... oui, ça, je suis convaincu. Il y a un retour du camping sous la toile. Je pense que les gens cherchent autre chose quand ils partent en vacances.
Et vous campez ?
Oui, 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 bien sûr, obligé.
Ça, c'est pas la tente igloo à laquelle on pense traditionnellement.
Non, non, non. En fait, ça, c'est en fait des tentes qu'on vend à des terrains de camping, qui les meublent. On peut aller jusqu'à mettre un feu de bois dedans.
Vous êtes
Olivier Paulus, responsable du bureau d'études et responsable aussi du service client.
Donc, cette tente, monsieur Paulus, c'est vous qui l'avez développée en fait ?
Oui, voilà, on l'a développée en fait avec le bureau d'études, avec les techniciens du bureau d'études. Une tente qui devait rester en fait montée à l'année dans leur camping et qui pouvait être aussi, modifiable à souhait à l'intérieur. Donc, parce qu'ils avaient le problème en fait de vouloir mettre en fait une salle de bain à l'intérieur de la tente, soit d'autres campings en fait de mettre non pas une salle de bain mais une grande chambre. Donc il fallait que cette tente soit complètement modulable.
Vous diriez que la tendance actuelle elle est à quoi ?
Actuellement, c'est plutôt, on va dire qu'au niveau du camping, c'est plutôt l'HPA. L'HPA, l'hôtellerie de plein air qui se développe énormément. Parce qu'en fait, le touriste actuel a plus tendance à partir en vacances dans un lieu où la tente est totalement montée. Il arrive avec son véhicule qui est souvent plus petit qu'il y a quelques années. Tout est prêt pour prêt à camper, on va dire. C'est plutôt la tendance qu'on a eue les deux dernières années et cette année qu'on continue à développer vers ça. Par contre, on sent aussi un retour de la tente haut de gamme, on va dire, sur remorque, la tente pliante qu'on fabrique aussi ici et qui commence à revenir en force cette année et je pense que dans les années à venir aussi.
Et là, c'est une tente plus bulle.
Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, des bulles d'hébergement. Alors, les bulles, c'est plutôt des séjours de quelques jours, lune de miel. En fait, on essaye de placer ces bulles dans des endroits un peu spéciaux, soit des beaux paysages, soit en forêt, de façon à ce que les gens aient une expérience un peu différente.
On peut voir les étoiles.
Voilà, aussi.
C'est l'heure de notre rendez-vous boursier. Bonjour Patrick Van Kampenhout.
Et bonjour Nathalie De Vic.
Vous évoquiez la semaine dernière le risque d'une correction en bourse et on a eu la confirmation de ce risque mercredi avec un sérieux coup de tabac.
Oui, vous l'avez noté, hein, les marchés boursiers sont un petit peu chers et l'intensité d'une correction à ce moment est d'autant plus importante qu'il y a pour les investisseurs des bénéfices à préserver. Je vous le disais aussi, depuis le début de l'année, les marchés boursiers européens avaient progressé de près de 20%. C'est énorme, bien sûr. Après la correction de ce mercredi, cette avance n'est plus que de 15%. La situation est évidemment un petit peu différente à Wall Street où les opérateurs se préparent à subir le changement de cap de la Réserve fédérale américaine en matière de politique monétaire. Quand on parle de politique monétaire, on parle bien sûr du principe de la remontée programmée des taux d'intérêt.
Et cette hausse des taux par la Fed, Patrick, est attendue pour l'été. Quels en seront les effets sur les actions ?
Eh bien, il y aura des effets, bien sûr. Il y en a déjà, ils sont sensibles puisque les opérateurs financiers tentent toujours d'anticiper les tendances. Et depuis le début du mois de mars, le marché américain consolide, comme on dit en bourse. Comprenez que les indices de référence et donc les cours des actions montent et puis descendent avec une amplitude décroissante. Un petit peu comme quand on laisse tomber une balle et qu'elle rebondit de moins en moins haut. Ça fait, si vous voulez, une sorte de triangle. Depuis le début de l'année, le marché américain est donc au point mort, ou presque. Le risque maintenant, bien sûr, est que la tendance devienne franchement négative au moment du premier tour de vis monétaire de la Fed. À ce moment, donc lorsque les taux vont commencer à grimper, une partie des capitaux investis en bourse risque de migrer vers les produits à rendement fixe au détriment des actions.
L'homme de tous les rebondissements. Merci Patrick Van Kampenhout.
Excellent week-end à vous. Au revoir.
Le mois dernier, le géant italien du pneu Pirelli est passé sous contrôle chinois. Une véritable institution de la péninsule et de son histoire va désormais rouler sous un autre drapeau. Un choc en Italie. L'occasion pour nous de rappeler dans notre histoire en écho la naissance de cette marque, Michel Lagaze.
Il nous faut nous rendre sur les rives enchanteresses du lac de Côme. C'est là que naît Giovanni Battista Pirelli, le 27 décembre 1848, dans la localité de Varennes. Pas question de parler d'Italie, il s'agit encore de l'Empire austro-hongrois. Les parents de Giovanni Battista auront 10 enfants, dont seuls 3 passeront le cap de l'enfance. Le père est boulanger, sa mère appartient à une famille, la bourgeoisie. Giovanni Battista va donc poursuivre des études universitaires à Milan, où il est inscrit en faculté de mathématiques et de physique. Après son diplôme, il suit encore 2 années de cours à l'université de Pavie, cette fois toujours en Lombardie. Nous sommes alors en 1865. Le sentiment national italien est très vif à l'époque. L'Autriche est honnie, Pirelli va rejoindre l'armée de volontaires de Garibaldi, une armée qui marche pour l'indépendance du pays. Après la guerre et l'indépendance, Pirelli reprend des études d'ingénieur. Étudiant brillant, il remporte une bourse proposée par une aristocrate milanaise en souvenir de son fils ingénieur décédé. Cette bourse permet de voyager dans de nombreux pays pour trouver une nouvelle industrie. Pirelli entame alors son voyage, 304 villes européennes. Il visite des centaines d'industries et c'est le caoutchouc indien qui l'attire. De retour à Milan, il fonde en 1872 une petite usine de pneumatiques. 45 personnes y travaillent et le départ ne se fait pas sur les chapeaux de roue. Non, difficultés économiques nombreuses. Mais Pirelli tient la barre et sa société monte en flèche. Il l'ouvre à l'exportation et élargit ainsi l'éventail des produits proposés. Chirurgie, câbles sous-marins, linoléum et en 1890, apparition des premiers pneumatiques pour les bicyclettes. En 1901, ce sont les voitures qui sont chaussées de pneus par Pirelli. Giovanni Battista Pirelli a 8 enfants. 3 de ses fils rentrent dans la société. En 1909, Pirelli est nommé sénateur à vie par le roi et 10 ans plus tard, il devient le premier président de la Confédération patronale. Il cumule les honneurs et meurt en 1932. Son entreprise ne va plus cesser de croître. Un des plus grands noms de l'économie italienne, 6 milliards d'euros de ventes. Pirelli a aussi fourni les pneumatiques pour la Formule 1. Elle est encore le mécène de l'équipe de football de Milan. Mais plus de roues de secours pour le 5e fabricant mondial de pneumatiques. Un groupe chinois va le racheter. L'Italie perd un nouveau fleuron. Elle est un pneu triste.
Quelle belle inspiration. Merci Michel, qui ne manque pas d'air. Elle non plus, c'est Karine Moitié. Et elle fait la une du dossier de La Libre Entreprise ce matin. Une travailleuse infatigable, titre La Libre. La directrice de Bicommerce parcourt le monde pour rester à la pointe de la vente en ligne. Son site de confection de chemises sur mesure est leader en Grande-Bretagne, où les tailors sont riches. Elle encourage les entrepreneurs à se lancer sans tarder. Et si vous voulez la connaître mieux, eh bien, vous connaissez le chemin. Vous lisez tout ça dans La Libre Belgique de ce matin.